L'environnement tout entier est une ZAD. Voici le titre du nouvel ouvrage de l'auteur Rémi Gillet que nous avons plaisir à recevoir en studio. Bonjour Rémi Gillet.
Bonjour Jacqueline, merci de me recevoir pour évoquer effectivement l'environnement aussi bien dans notre secteur que de façon plus générale.
Alors on rappelle que vous êtes le président de l'association Environnement Nord-Sarthe dont le siège est basé à Champfleur, citoyen engagé depuis plus de 30 ans. Une longue expérience sur le terrain que vous avez souhaité relater, je pense, dans cet ouvrage présenté sous la forme d'un essai. Je propose d'abord que vous commenciez par présenter l'auteur Rémi Gillet.
Mais écoutez, ça fait effectivement plus de 30 ans que nous avons fondé avec quelques amis et citoyens de la région de Champfleur et des environs l'association Environnement Nord-Sarthe. Au départ, c'était pour surveiller en quelque sorte, s'assurer que l'autoroute A28 n'allait pas impacter un peu trop notre secteur. Et nous avons suivi de façon assidu toutes les réunions auxquelles nous avons pu assister. Après quoi, nous avons élargi notre action à divers problèmes, les problèmes de l'énergie, les problèmes des déchets qui étaient importants à l'époque, etc., etc.
De nombreuses informations donc dans cet ouvrage publié aux éditions Nombre 7 que nous allons amplement présenter à nos auditeurs. Donc l'environnement tout entier est une ZAD, un titre qui interpelle, je pense, à la limite provocateur. Quelques explications à ce titre ?
Écoutez, oui, ça peut paraître provocateur au premier abord. En même temps, il faut bien voir que quand on compartimente le monde de façon à ce qu'il y ait des zones protégées, parcs nationaux, aires marines protégées, etc., etc., il arrive que, c'est pas obligatoire, mais quand même, on fasse n'importe quoi à côté ou qu'on s'autorise à faire n'importe quoi à côté. Et c'est ça qui est problématique. Et si l'on regarde autour de nous, à Champfleur même, moi je me souviens quand nous sommes arrivés en 1978, il y avait des alouettes dans les champs de façon constante. À l'époque où elles se mettent à chanter, c'était même très joli. Et puis, petit à petit, il y en a de moins en moins. Parce que il y a une forme d'agriculture intensive avec des pesticides, etc. qui a détruit à la fois les insectes, d'une part, dont pouvaient se nourrir les alouettes, les animaux de façon plus générale, et puis d'autre part, les oiseaux eux-mêmes. De la même façon, nous mettons en évidence dans le golfe de Gascogne le fait que dans cette aire non protégée, les filets de pêche tuent des dizaines, des centaines même de cétacés chaque année, en particulier des dauphins qui sont attrapés avec d'autres poissons. C'est donc dans ce sens-là que nous disons que c'est l'ensemble de la planète est une zone à défendre. Voilà, faire en sorte que la pêche devienne plus raisonnable, faire en sorte que l'agriculture devienne plus raisonnable, ça signifie moins d'intrants dans l'agriculture, ça signifie des filets de pêche mieux adaptés pour la pêche hauturière. Voilà.
Cet ouvrage sous forme d'un essai donc se présente en différentes parties. Je vous propose de nous présenter ces grands points donc que l'on retrouve dans cet ouvrage.
Alors dans un premier temps, bon, il y a une préface avec quelques avertissements. Nous venons d'évoquer l'un des deux avertissements justement.
Tout à fait.
D'autre part, il y a une première partie la plus importante qui concerne les 5 axes selon lesquels nous avons orienté notre action depuis plus de 30 ans. À savoir les problèmes de l'énergie, la défense de la nature en tant que telle, aussi bien en ville qu'à la campagne, hein, nous insistons là-dessus, et même dans les esprits. Troisièmement, les problèmes liés aux déchets. Quatrièmement, les problèmes liés à l'eau. Et enfin, toute notre action en direction des citoyens, des enfants, pour essayer de mettre en place une éducation à l'environnement. Deuxièmement, dans la deuxième partie, je propose un historique à partir d'un certain nombre de textes qui sont tous publiés par nos soins Environnement Nord-Sarthe, sauf l'un que je n'ai pas pu publier au nom d'Environnement Nord-Sarthe parce que nous étions trop pressés par le temps. C'est celui qui concerne l'article que nous avons proposé juste entre les deux tours des élections présidentielles. Et puis il y a une troisième partie qui concerne, qui est une postface, qui est un élargissement qui vise à mettre en évidence quels sont les problèmes aujourd'hui et ceux qui nous attendent demain et dans quelle mesure et jusqu'où on peut espérer pouvoir les résoudre. Voilà.
Je propose qu'on revienne plus en détail sur la première partie que vous avez intitulée « Au risque de tout perdre », qu'on reprenne chapitre par chapitre les différents points évoqués. On va commencer par le chapitre 1 sur le thème de « L'énergie, ça chauffe ».
Alors, ça chauffe dans tous les sens du terme. Ça chauffe parce que c'est l'origine quand même du réchauffement de la planète. Nous utilisons des énergies fossiles, le charbon et le pétrole principalement. Ces énergies fossiles libèrent, quand on les utilise, du CO2, gaz carbonique, qui va renforcer ce qu'on appelle l'effet de serre de l'atmosphère. C'est pas grand-chose a priori, c'est des milliards de tonnes de gaz carbonique quand même chaque année. Hein. C'est donc pas rien non plus. Et quand on parle de l'anthropocène, on peut se dire que l'action de l'homme dans ce domaine en particulier est particulièrement visible. Bon, des efforts sont soi-disant faits pour essayer de développer considérablement les énergies renouvelables. A priori, c'est vrai. En même temps, il faut bien avouer que on ne diminue pas ou très peu notre dépendance au charbon, notre dépendance au pétrole et au gaz d'ailleurs. Pour une raison simple, c'est que les gouvernants, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord politique, qu'ils soient démocrates ou pas, qu'ils soient libéraux ou pas, ont du mal à faire comprendre ou à faire admettre à leurs électeurs, oui, que ma foi, dans les démocraties en tout cas, que ma foi, il va falloir vivre autrement. Ça ne veut pas dire qu'on vivra plus mal, mais vivre autrement, ça signifie quand même qu'on a pris des habitudes que je vais qualifier d'économiques et de culturelles, qui sont pas tenables. S'il fallait que tout le monde vive comme les Européens, soyons clairs, il faudrait trois planètes. On perçoit bien que, d'une part, ce sont bien les Européens, les Américains, les Japonais sans doute aussi, qui sont les premiers responsables d'une pollution par le gaz carbonique qui provoque ce réchauffement de la planète. Deuxièmement, que ce sont, et là c'est là qu'il y a le scandale par certains côtés, que ce sont les pays les moins émetteurs qui vont en souffrir le plus, en tout cas une partie d'entre eux. On peut dire que le Bangladesh, je donne cet exemple, mais on peut en donner d'autres, hein, bien entendu, le Bangladesh qui émet peu de gaz carbonique risque d'être submergé d'ici 100 ans.
Sur le chapitre 2, vous parlez de défendre la nature à la campagne, en ville et dans les esprits, et là on est sur le plan local. Je vous laisse présenter les différents points de ce chapitre.
Alors, en ce qui concerne la nature, il s'agit d'une nature qui, dans notre secteur, est une nature campagnarde. Ce n'est pas une véritable nature sauvage, comme on peut en voir dans les coins les plus reculés de la planète. Mais il n'empêche que dans une haie, dans une forêt, sur le bord des routes, etc., il y a quand même une nature sauvage qui peut être, doit être, qui devrait être préservée, parce que cette nature sauvage, elle est source de biodiversité, et que la biodiversité est l'une des conditions par lesquelles, oui, il est possible d'utiliser, par exemple, moins de pesticides. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le fait pas. Cette nature, elle existe également en ville. Il y a des inventaires qui ont été faits depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années sur les centaines, je dis bien, hein, centaines, de plantes et d'animaux qui vivent en ville, plantes et animaux sauvages. Hein. Ce qu'on appelle souvent les mauvaises herbes, comme si il y avait de mauvaises herbes. Bon, il y a des herbes qui nous gênent, c'est vrai, mais l'adjectif mauvais n'est vraiment pas le bon. Troisièmement, dans les esprits, parce que en fait, nous avons une forme d'esprit qui fait que la nature nous appartient. Cette considération-là n'est pas vraie dans toutes les civilisations, loin de là. La plupart même des civilisations non européennes sont des civilisations dans lesquelles l'homme fait partie de la nature. Nous autres Européens, sans doute sous l'influence de la Bible en particulier, nous avons tendance à considérer que la nature nous appartient. Dieu nous l'a donnée, on en fait ce qu'on veut. Et cette façon d'être, qui n'était pas problématique jusqu'à il y a 150 ans à peu près, peut-être 200 ans maintenant, elle est devenue problématique avec les progrès technologiques faits par les Européens. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la nature, moins on a tendance à la considérer comme utile, plus on a tendance à la considérer comme un objet dans lequel nous ne sommes pas. Alors c'est là qu'est vraiment le problème. Si on veut se protéger nous-mêmes, il faudra bien protéger la nature. Si la nature meurt, il n'y a plus d'humanité. Il faut être très clair de ce côté-là. Donc, il faut revenir en arrière dans les esprits, il faut revenir en arrière, et le pape lui-même, dans son encyclique Laudato Si, si j'ai bon souvenir, le dit, sauf que il n'est guère entendu lui non plus, tout simplement parce que revenir à François d'Assise, c'est pas si évident que ça, parce que François d'Assise, et malgré tout, et quoi qu'on puisse en penser, je suis agnostique, donc je juge François d'Assise pour ce qu'il fait, il propose une façon d'être au monde dépouillée, très dépouillée même en ce qui le concerne, qui ne plaît pas à tout le monde, hein, tout simplement.
Troisième chapitre est consacré à l'eau. Alors l'eau, évidemment, un commun à protéger.
Absolument. Alors, quand on voit la pollution diffuse, qui est indépendamment des pollutions graves, accidentelles, mais quand on voit la pollution diffuse qui se trouve dans nos rivières, je vais aller au bord de mer en Bretagne, et on sait bien que la mer est même elle-même polluée par l'excès de nitrate déversé dans les rivières au départ. On perçoit bien que nos modes de production, ici productions agricoles, nos modes de production sont incompatibles avec une préservation durable de la nature. Là aussi, est-ce qu'il faut revenir en arrière? Pas nécessairement, mais il y a moyen de faire autrement. Des agriculteurs se sont lancés dans ce indépendamment de l'agriculture bio, comme on dit, il y a des agriculteurs qui se sont lancés dans d'autres formes d'agriculture durable et qui dépensent moins d'argent, d'ailleurs, pour acheter tous ces intrants par lesquels on s'empoisonne petit à petit, et qui expliquent ce que nous disions tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a plus guère d'alouettes dans les champs. Et de ce point de vue-là, l'eau est à préserver. Alors, elle est à préserver aussi parce que nous déversons dedans tous nos déchets. Faire l'inventaire serait épouvantable, mais c'est des centaines et des centaines de produits divers. Quand nous faisons une lessive, par exemple, nous utilisons des produits qui, à très faible dose, c'est vrai, mais nous sommes des milliers et des milliers, à très faible dose, ne seraient pas polluants, mais qui, par l'adjonction de tous ceux que nous rejetons, finissent par polluer assez gravement, voire gravement les rivières. Alors, pendant des années, nous avons fait, en tant qu'environnement Nord-Sarthe, des relevés de nitrates dans une vingtaine de sites autour d'Alençon, dans le Nord-Sarthe. Nous avons arrêté parce que, autant dans un premier temps, c'était intéressant, puis ça avait interpellé un petit peu le public et les élus, mais dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que les nitrates ayant baissé, ce qui était une bonne chose, hein, cela n'avait pas entraîné, d'autres analyses le prouvaient, qui n'était pas de notre fait, hein, je dois le dire, d'autres analyses ont prouvé que les autres intrants, les pesticides, ce qu'on appelle les pesticides, ne baissaient guère. Incontestablement, ça a baissé légèrement, puisqu'on est passé, je cite de mémoire, de 80 000 tonnes de pesticides par an à 50 000 tonnes de pesticides par an, mais en réalité, on avait prévu de diminuer par deux l'utilisation des pesticides en 10 ans, et au bout de 15 ans, bientôt maintenant, on a diminué de 30 ou 40%, pas 35%. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de mal, nous avons aussi bien les pouvoirs publics que les agriculteurs, que les chambres d'agriculture, que les industriels qui fabriquent ces produits ont du mal à passer à autre chose.
Quatrième chapitre, on parle cette fois-ci des déchets. Vous l'avez intitulé « Nos bien chers déchets ».
Alors, bien chers, oui, dans tous les sens du terme. Ça a été un sujet très, très prenant. Au départ, seul l'est toujours pour d'autres raisons. Au début, l'accumulation des déchets était telle que les monceaux de déchets, c'était à Arsenay en particulier que c'était déversé, donc pas très loin d'ici, les monceaux de déchets devenaient vraiment problématiques. Et puis on a impulsé le tri, c'est vrai, etc., etc. En réalité, malgré tous les efforts qui ont été faits, le tonnage par habitant n'a pas évolué favorablement. On fait toujours beaucoup de déchets qui sont pour une partie des déchets qu'on va qualifier d'inutiles. C'est les suremballages, il y en a toujours. C'est les bouteilles qu'on jette un peu n'importe où, bouteilles en plastique, y compris bouteilles en verre, puisqu'elles ne sont plus consignées. Et cette accumulation d'objets dont on ne veut plus est toujours problématique aujourd'hui. C'est moins grave que ça n'a été, mais le problème n'est pas vraiment résolu, pour la raison que on est passé d'une économie où on réutilisait beaucoup d'objets. Dans les années 50, 60, et même dans les années 70, on avait encore des bouteilles consignées, pour donner cet exemple extrêmement précis. Et puis, on a arrêté de consigner les bouteilles. C'est à la fois au client qui a acheté de se débarrasser de sa bouteille, comme il peut, le pauvre, et puis c'est aux collectivités locales de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse s'en débarrasser, pauvre collectivité locale, alors que si on revenait, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, même si ça marche moins bien qu'on ne le dit, si on revenait à des consignes systématiques, on aurait moins de déchets malgré tout, et on ferait de moindres dépenses d'énergie, puisque, je donne l'exemple du verre. Pour fabriquer du verre, il faut dépenser quand même pas mal d'énergie à partir du sable. C'est vrai qu'on va dépenser moins d'énergie à partir des bouteilles que l'on recycle. Aussi, on recyclait les bouteilles pour les réutiliser. Purement et simplement, on dépenserait encore moins d'énergie. Sauf que, et c'est là que le bât blesse, et qu'il faut que tout le monde s'interroge sur ses pratiques, sauf que ça coûterait sans doute un peu plus cher, pour la raison que il faudrait des gens pour trier les bouteilles, etc., etc. Dans un univers où on a la prétention de toujours payer moins cher, mais de gagner toujours plus, il y a une ambiguïté à ce niveau-là que chaque citoyen devrait méditer.
Et dans ce chapitre 5, vous énumérez différentes actions d'éducation à l'environnement.
En fait, il faut faire connaître nos points de vue. C'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Et en tant qu'environnement Norsac, nous avons essayé de passer par tous les biais possibles qui étaient à notre portée. Donc, articles dans les journaux, bien entendu, journaux communaux, hebdomadaires, etc. Dans un premier temps, de temps en temps, émissions de radio ou de télé, moins souvent parce que c'est moins commode par certains côtés. Deuxièmement, on s'est efforcé de distribuer des tracts sur la voie publique, à l'entrée d'une grande surface, etc., tenir des stands dans des manifestations collectives, d'associations ou pas. Dans des grandes surfaces également, ça nous est arrivé. Quatrièmement, nous servir d'Internet. Nous avons l'un de nos membres qui s'y connaît et qui tient notre site Internet qui de façon très très intéressante. Et puis, il y a bien entendu d'autres moyens encore, et en particulier en direction des écoles. Pendant des années et des années, nous sommes intervenus dans les écoles. On l'a moins fait, on l'a refait récemment. Tous ces moyens sont-ils efficaces? On peut se poser la question de temps en temps. Ça nous a jamais amené tellement de nouveaux adhérents, faut bien le reconnaître. Un peu de reconnaissance, incontestablement, des autorités, sans doute. Voilà.
j'ai marché dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois. Et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 ah. Le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la salle épaisse et mon sang. Dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Donc en deuxième partie de cet ouvrage, vous faites un petit condensé, on va dire, de l'activité d'environnement Nord-Sarthe depuis toutes ces années.
Oui, alors il y a plusieurs sous-chapitres, enfin un petit chapitre. L'un concerne les débuts d'environnement Nord-Sarthe, année après année. C'est un résumé que nous avions fait de nos actions au début des années 2000. Donc ça va de 92 à 98, si j'ai bon souvenir. Et puis après, je propose un bilan que nous avions fait 20 ans après la création de notre association, et puis le bilan à 30 ans que nous avons fait également pour Sarthe Nature Environnement, puisque en tant qu'association, nous faisons partie de Sarthe Nature Environnement, alors qui s'appelle maintenant France Nature Environnement Sarthe. Ce sont des flashs, si vous voulez, qui permettent aux lecteurs de voir en même temps toutes les directions dans lesquelles, années après années, Environnement Nord-Sarthe a pu travailler. Voilà. Et puis, là-dedans, il y a quand même un cas un peu particulier qui est celui de notre participation au Grand Débat National en 2019, je crois. C'était suite au Gilet jaune, hein, donc ça doit être ça. Et là, il y a effectivement un point un peu plus précis de ce à quoi nous croyons, de ce à quoi nous pensons qu'il faut s'atteler encore aujourd'hui, car même si nous avons pu être satisfaits d'un certain nombre de progrès que nous avons obtenus par l'action continue auprès des différents pouvoirs, je veux dire le pouvoir politique, mais aussi les pouvoirs économiques, mais aussi, etc., le pouvoir administratif également, il n'empêche que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas au bout de nos peines, les progrès n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre, et la planète continue de se réchauffer d'une part, et la biodiversité continue d'être malmenée comme ce n'est pas possible d'autre part. Donc ça signifie que quels que soient les efforts qu'une organisation comme la nôtre Et toute petite, mais nous faisons quand même partie de France Nature Environnement, après tout. Et personnellement, je fais partie d'autres associations de défense de la nature, en particulier la Société Nationale de Protection de la Nature. Mais bon, quels que soient tous les efforts produits par ces associations, ils aboutissent malheureusement insuffisamment, on va dire. Il faut être optimiste, mais raisonnablement.
Si vous amène à conclure cet ouvrage par la postface, oui, je crois, avec cette interrogation et après.
Et après, oui, très clairement, la situation a évolué, mais pas suffisamment rapidement, incontestablement. Et du reste, on voit bien que l'État lui-même table sur 4 degrés en France de réchauffement en 2100 et non plus 3 comme précédemment dans l'optique d'un réchauffement planétaire à 1,5 ou 2 degrés. Bon, donc ça signifie réchauffement planétaire à 3 degrés et pour la France à 4 degrés. Et ce qui signifie à 7 degrés dans les Alpes et à 7 ou 8 degrés au pôle Nord. Parce que la planète ne se réchauffe pas de la même façon partout. Ça signifie que la situation est quand même sérieuse. Ça signifie que les pouvoirs, quels qu'ils soient, ont du mal à passer à une action vraiment efficace, que ce soit les pouvoirs politiques ou les pouvoirs économiques ou les pouvoirs administratifs. Même si des progrès sont faits, il n'empêche que ça ne va pas assez vite, très clairement. Tout simplement parce qu'on veut continuer comme avant, malgré tout. Donc, je dénonce un certain nombre d'illusions de ce point de vue-là et un certain nombre de blocages qui, tant qu'ils n'auront pas sauté, les blocages, et tant qu'elles ne seront pas anéanties, les illusions, continueront à faire en sorte qu'on n'avancera pas assez vite. Alors, parmi les illusions, il y a l'illusion technologique, qui consiste à croire qu'on va s'en tirer grâce à la technologie. Je ne rejette pas la technologie, mais dans un certain nombre de cas, malgré tout, on sait très bien que c'est pas possible. Je donne un exemple. Récemment, j'ai entendu dire, j'aurais pu le dire, mais bon, l'impression était partie. Récemment, j'ai entendu dire que le trafic aérien allait doubler, voire tripler d'ici 2050, grâce à des avions qui seraient verts. Sauf que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut dépenser quand même 4 fois l'énergie qu'on va dépenser après pour faire voler l'avion. Il faut quand même se poser quelques questions avant de lancer des absurdités de ce type-là, parce que c'est une absurdité. Et quelqu'un comme Jean Covici, qui est un personnage assez haut en couleur, dit bien, je cite de mémoire, dit bien que il faudrait que chaque individu sur Terre ait droit à 4 ou 5 voyages aériens dans sa vie. J'en ai déjà fait plus que ça, et j'en fais pas beaucoup par rapport à d'autres. Donc, on voit bien ce que c'est que l'illusion technologique. Si on peut pas continuer comme avant. C'est ce que dit Jean Covici très clairement. Est-ce qu'on vivra moins bien? Je suis pas du tout sûr. On a la bougeotte, mais on a la bougeotte de façon infernale. On en est malade par certains côtés. Or, on peut très bien vivre heureux en bougeant moins et en consommant peut-être moins de cochonneries, mais mieux élaborées. Il me semble que là, il y a un certain nombre de choses à dire. Quant au blocage, bon, il me semble qu'ils sont quand même passablement d'ordre économique, les blocages économiques, à partir du moment où on continue aujourd'hui à considérer le produit intérieur brut comme quelque chose de sacro-saint, on s'empêche de regarder la croissance autrement. Donc, plus on pollue, plus le produit intérieur brut augmente. Voilà ce que ça signifie. On a quand même, à certains égards, l'art de marcher sur la tête. Et là aussi, nos gouvernants ne sont pas assez indépendants des pouvoirs économiques. Il faut être très clair. En tout cas, dans nos démocraties. Voilà ce que je peux dire pour donner espoir quand même à mes lecteurs, sans être trop pessimiste.
En résumé, donc, cet ouvrage, L'environnement est tout entier une ZAD, pourquoi l'avoir écrit?
Parce qu'on m'a dit, quand j'ai sorti mon 3e ouvrage sur prof de français au secours, moi je pensais que je m'arrêterais là. Et puis, la question m'a été posée par des amis. Et maintenant, qu'est-ce que t'écris ? Et j'ai su à ce moment-là, au moment où il me posait la question, que j'avais quelque chose à dire sur l'environnement. Alors c'est pas moi, c'est l'association, puisque la plupart des textes, alors tous les textes en italique sont des textes de l'association, sauf un, puisque je dis bien, dans l'entre-deux-tours, j'ai pas eu le temps de faire valider ce que j'avais écrit par les membres du bureau. Mais au demeurant, tous ces textes sont des textes de l'association, ils ont une variété de tons très diverse, donc c'est un collectif qui écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait personnellement ? J'ai présenté et j'ai conclu. En quelque sorte, à partir de ce que nous avions fait, pour mettre ça en perspective par rapport au passé. Et je dis bien qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous n'écririons plus de la même façon, mais par rapport aussi au futur, pour mettre en évidence que, bah oui, il y a des choses que nous disons quand même depuis un certain temps, et ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Hélas, c'est que nous n'avons pas été si bons que ça, peut-être.
Justement, il me semble qu'on n'a pas parlé de l'avertissement numéro 1. Il me semble qu'en avertissement numéro 1, donc au début de cet ouvrage, vous parlez de la science-fiction qui devient réalité.
Absolument, la science-fiction est en train de devenir réalité. Des ouvrages sur la mort de la Terre, il y en a eu des dizaines et des dizaines. J'en cite un en particulier, La mort de la Terre de Rosniené, qui voit la Terre se dessécher. Mais c'est pas la mort de la Terre, c'est la disparition de l'humanité que raconte Rosniené. Ça nous menace, hein, par certains côtés. L'espèce humaine est une espèce animale parmi les autres, et il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas disparaître. Sauf que nos croyances, au sens biblique du terme, en ce qui nous concerne en Occident, nos croyances nous ont conduit à nous croire au-dessus, justement, de cette nature que nous détruisons. Et je pense qu'il conviendrait, non pas de revenir en arrière, mais de vivre autrement. Ce qui n'est pas la même chose.
En tout cas, on espère que vous allez trouver vos lecteurs, que de nombreux auditeurs s'intéresseront à cet ouvrage, donc que vous allez présenter très prochainement, voilà. Notamment donc au Salon littéraire à Saint-Léonard-des-Bois.
Voilà, je serai à Saint-Léonard-des-Bois, donc au Festival des métiers d'art, voilà, et avec d'autres amis écrivains. Et donc, j'aurai plaisir à accueillir tous les lecteurs potentiels qui voudront bien venir nous voir. Je vous en remercie et je vous remercie aussi, Jacqueline, de votre accueil.
Et un dernier mot pour conclure sur la couverture de ce livre et le dessin qui illustre cette couverture.
Alors, le dessin, c'est la Terre en train de fumer de toutes parts, la pauvre malade de l'humanité.
Merci à vous, Rémi Gillet, d'avoir présenté cet ouvrage sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles.
Merci, Jacqueline, c'est bien aimable à vous de m'avoir accueilli.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Qu'est-ce que tu vois ?
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier.
Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta
maison ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Dans ton corps,
et toi,
ta flamme,
qu'est-ce que tu vois?
Ton trésor,
et toi,
tu maltraites.